Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
La fête de l'Assomption, endeuillée par les troubles en Égypte, en déplacement à Castel Gandolfo, le pape François a invité les fidèles à prier pour le dialogue et la réconciliation dans cette chère terre et dans le monde entier. Le pape François qui a invité les disciples de Jésus à se battre contre les forces du mal et qui a rendu un nouvel hommage aux femmes dont le rôle important doit être pris en considération dans l'Église. Dans ce magazine, nous irons également à Notre-Dame de Paris et à Lourdes, ainsi qu'en République démocratique du Congo, où la situation des déplacés reste dramatique. En ce 15 août, solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, le pape François a lancé un appel en faveur de l'Égypte qui a connu mercredi la journée la plus sanglante de son histoire récente lors de la dispersion violente des manifestations pro-Morsi. Le Saint-Père a passé la matinée à Castel Gandolfo près de Rome où il a célébré une messe en plein air devant la résidence estivale des papes. À la fin de la messe et avant la prière de l'Angélus, évoquant les nouvelles trop douloureuses en provenance d'Égypte, il a demandé aux catholiques de prier ensemble pour la paix.
Maria, Regina della Pace, prega per noi.
Marie, reine de la paix, prie pour nous, a récité le pape François, assurant de ses prières toutes les victimes et leurs familles, les blessés et ceux qui souffrent.
Per i feriti e per quanti soffrono.
Plus de 40 églises coptes ont été incendiées ou pillées mercredi en Haute-Égypte par les frères musulmans. Selon un ministre égyptien, les petits commerçants chrétiens ont été visés par des attaques extrêmement sauvages. Certains ont tout perdu. Les partisans du président déchu Mohamed Morsi ont mené des actions de représailles contre l'intervention meurtrière des forces de l'ordre. Nous avons joint une nouvelle fois ce jeudi Mgr Kyrillos William, l'évêque copte catholique d'Assiout.
Les islamistes sont sortis aux manifestations hier dans la cité d'Assiout pour protester contre la dissolution de leur manifestation du Caire. Et où ils n'ont pas trouvé de résistance, ils ont assalté les églises, ils ont brûlé plusieurs églises à Assiout, dont une des nôtres, celle du couvent des Pères franciscains, une église très très belle construite par les Italiens une centaine d'années maintenant, les missionnaires franciscains italiens. Et ils ont brûlé le magasin des souvenirs, toutes les voitures qui étaient dans la cour, des voitures des amis qui ont déposé là-bas chez les pères, et les bureaux des pères au premier étage, et puis plusieurs églises orthodoxes, dont la Saint-Georges, dans Saint-Abadir, une église protestante, une église des adventistes, le magasin de la Bible Society et beaucoup de magasins des chrétiens.
C'était l'évêque copte catholique d'Assiout. À l'homélie de la messe de l'Assomption sur la place centrale du village de Castel Gandolfo, le pape François a proposé aux fidèles trois paroles clés que suggère le mystère de l'Assomption, lutte, résurrection et espérance. L'occasion pour lui d'évoquer la situation de l'Église et des disciples du Christ qui continuent de lutter contre le mal, mais qui ne doivent jamais permettre qu'on leur vole l'espérance. Xavier Sartre.
L'Église est comme la femme de l'Apocalypse qui lutte contre le dragon. D'un côté, elle est glorieuse et triomphante. De l'autre, elle vit dans l'histoire les épreuves et les défis qui découlent du conflit entre Dieu et le malin, l'ennemi de toujours. Marie, qui a partagé cette double condition, nous accompagne dans cette lutte. Elle assiste les chrétiens dans leur combat contre les forces du mal. Le pontife argentin a alors encouragé les fidèles à réciter le rosaire, une prière qui soutient dans la bataille contre le malin et ses complices. Mais si la lutte quotidienne entre le bien et le mal est le lot des disciples de Jésus, surtout là où le corps du Christ souffre aujourd'hui, la passion, l'espérance alors est la vertu de ceux qui croient en la résurrection et en la victoire de l'amour. Le pape François a évoqué les saints connus ou inconnus, les pères et les mères, les catéchistes et les missionnaires, les jeunes et les enfants qui ont affronté les combats de la vie en portant dans le cœur l'espérance des petits et des humbles. Le Magnificat est leur cantique, cantique de patience et de victoire, de lutte et de joie, qui unit l'Église triomphante et l'Église pèlerine, qui unit la terre et le ciel, l'histoire et l'éternité. Enfin, le Saint-Père a expliqué que le mystère de l'Assomption de Marie, corps et âme, est tout entier inscrit dans la résurrection du Christ, vérité fondamentale sur laquelle se base toute notre foi. Le Christ est le premier des ressuscités, et Marie, la première des rachetées.
Et à l'Angélus, le souverain pontife a par ailleurs mentionné le 25e anniversaire de la lettre apostolique de Jean-Paul II sur la dignité et la vocation des femmes, Mulieris Dignitatem, publiée à l'occasion de l'année mariale et centrée sur la figure de Marie. Le pape François a invité à prier pour que toutes les femmes trouvent la plénitude de leur vocation et pour que l'Église approfondisse et comprenne encore mieux l'importance de leur rôle. Plusieurs idées contenues dans la lettre de Jean-Paul II, a-t-il dit, méritent d'être reprises et développées. Toujours à l'Angélus, le Saint-Père a remercié les habitants de Castel Gandolfo et les pèlerins. Parmi ces derniers, il a cité les fidèles guinéens, accompagnés du président de la conférence épiscopale, Mgr Emmanuel Felemou, qui nous a livré sa réaction.
Je suis venu avec 100 pèlerins de la Guinée pour rencontrer le Saint-Père en ce jour de l'Assomption. C'est une grande joie pour l'humanité de célébrer la Vierge Marie, mais c'est une grande joie pour nous de pouvoir faire la messe avec le Saint-Père la première fois. C'est un pape qui a beaucoup marqué l'humanité par sa simplicité, par l'esprit qu'il a pour les pauvres et par son amour pour changer ce monde en joie, de la peine à la joie des pauvres. Et donc je pense que pour moi c'est un grand jour et je rends grâce à Dieu.
Mgr Emmanuel Felemou, président de la conférence des évêques catholiques de Guinée-Conakry. À son arrivée à Castel Gandolfo, avant de célébrer la messe jeudi matin, le pape François avait rencontré les Clarisses du monastère cloîtré d'Albano, un village tout proche. Il leur avait déjà rendu visite il y a un mois. Il les a invitées à vivre leur vocation en restant fidèles à leur charisme. Les religieuses ont raconté que le souverain pontife était serein et détendu, comme s'il n'avait pas de soucis et n'avait rien à faire. Pour lui, Marie ouvre la voie du ciel. À Paris, la solennité de l'Assomption a coïncidé cette année avec le 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame. Au programme, une procession fluviale, mercredi soir, retransmise en direct sur France 2, une procession à pied ce jeudi et la messe solennelle présidée par l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII. Encouragé par le beau temps, des milliers de fidèles ont participé aux festivités. Le cardinal XXIII a repris le vœu du roi Louis XIII de 1638. Le souverain avait, à cette époque, consacré le royaume de France à la Vierge Marie. Une consécration qui laisse admiratif le recteur de la cathédrale, Mgr Patrick Jacquin.
C'est très important de voir comment des hommes tout puissants qui puissent être puissent consacrer à Marie toutes leurs énergies et toute leur puissance créatrice et aussi la volonté de faire travailler au bien public pour tous leurs sujets. Pour nous, c'est très important parce que ces 850 ans de la cathédrale, on a pris comme thème une phrase de saint Augustin qui est « Via viatores quaerit ». Je suis la voie, mais au lieu qui cherche des voyageurs.
Vous recevez pendant un mois à peu près les quatre tapisseries que représentent aussi quatre étapes de la Vierge Marie. C'est aussi une façon d'amener peut-être des personnes à redécouvrir un petit peu la vie de Marie à travers ces tapisseries.
Effectivement, beaucoup de gens viennent et découvrent les merveilles de ces tapisseries. Mais vous savez, les tapisseries, c'est celles qui étaient d'abord à Notre-Dame et puis qui ont été vendues par le chapitre au chapitre de Strasbourg. Cathédrale de Strasbourg qui le conserve très bien dans sa cathédrale et qui l'expose tous les ans là-bas en novembre. On en a demandé de nous en prêter quatre, très gentiment et gracieusement, ce qu'ils ont fait, et pour pouvoir les exposer pendant le temps de l'été, en ce temps de jubilé exactement, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, d'où elles viennent en quelque sorte. De toute façon, vous savez, les gens, qu'est-ce qui leur parle aujourd'hui au cœur? C'est le beau, le vrai, le grand. Et quand ils rentrent à la cathédrale, c'est la sculpture, c'est l'architecture, c'est les vitraux, c'est le chemin du jubilé qu'on a construit sur la cathédrale pour que les gens prennent le temps de contempler cette façade. Mais c'est aussi effectivement le trésor. Donc il y a plein de choses qui touchent le cœur des gens parce que c'est l'expression artistique dans la pierre, dans le verre, ce qu'est Dieu pour des artistes.
Une dernière question, est-ce que vous remarquez chez les fidèles plus d'intentions de prière envers Marie?
Les gens, ils déposent leurs intentions de prière au pied de Marie, là, ils écrivent beaucoup de livres chaque semaine, et c'est toujours les intentions pour l'unité de la famille, pour la santé des gens, des membres des familles, et aussi pour la réconciliation, et pour toutes les familles en deuil qui en connaissent des drames. En Marie, ils ressentent là un refuge, quelqu'un qui écoute et qui est compatissant. C'est Notre-Dame pour tout le monde.
Des propos recueillis par Maxime Babser. À Lourdes, des milliers de fidèles, dont beaucoup de jeunes et de malades, ont participé aux offices de l'Assomption parmi les stigmates encore visibles des inondations catastrophiques de juin. Des familles étaient venues réaffirmer les valeurs familiales, aujourd'hui malmenées. L'évêque du Havre, Mgr Jean-Luc Brunin, a dénoncé la survalorisation du corps dans nos sociétés. Il a invité les fidèles à se réjouir des choses simples et vraies, avant de dédier la célébration de l'Assomption aux pauvres, aux peuples en guerre et en particulier aux Égyptiens qui traversent une tragédie. En ville, une dizaine d'hôtels sont restés fermés pour la saison des pèlerinages. Le contre-coup des inondations a dissuadé certains pèlerins de rallier Lourdes. Leur nombre est en baisse par rapport aux années précédentes. En revanche, l'appel aux dons lancé après les inondations de juin a montré une solidarité supérieure à celle que Lourdes avait vécue lors des inondations précédentes d'octobre 2012. Toujours en France, des musulmans ont manifesté en début de semaine près de Lyon pour dénoncer l'islamophobie montante. Ils ont répondu à l'appel de Kamel Kaptan, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, après l'arrestation d'un militaire qui voulait tirer sur la mosquée de Vénissieux le jour de l'Aïd, la fête qui met fin au jeûne du Ramadan. Plusieurs musulmans présents pendant la manifestation ont confié s'inquiéter de ce climat. Un climat d'islamophobie selon le recteur de la Grande Mosquée de Lyon qui rappellerait même l'antisémitisme des années 30. Le père Christian de Lorme, ex-curé des Minguettes, était aussi présent lors du rassemblement. Engagé dans le dialogue islamo-chrétien, il nuance les propos du recteur.
Il y a bien sûr de l'exclusion, du rejet, et on sent de plus en plus les tentations du rejet, notamment par rapport aux femmes voilées, mais il y a aussi beaucoup de gens, et c'est la majorité en France, qui cherchent à construire une société pacifique et pacifiée. Et quand je regarde les sorties des écoles, alors je vois des femmes voilées et pas voilées, maghrébines et pas maghrébines, musulmanes et pas musulmanes, etc., qui parlent ensemble, qui rient ensemble, et c'est ça qui est important. Il y a du racisme, il y a de l'islamophobie, il y a de l'hostilité à l'égard des Roms, il y a, etc., bien d'autres phénomènes, aussi parfois des phénomènes de rejet des chrétiens ou des Européens, ça arrive, tout cela existe, mais la majorité de la société française veut vivre autrement, et c'est ça qu'il faut absolument préserver ensemble.
Et pourquoi, selon vous, les religions, les minorités, cristallisent toutes ces angoisses que peuvent ressentir les Français ?
On observe, c'est pas d'aujourd'hui, que dans toutes les périodes de crise, les gens se sentent insécurisés. Et lorsqu'il y a de nouveaux modes de vie qui apparaissent, eh bien les gens peuvent parfois se sentir agressés. Je crois que le fait d'être insécurisé par la présence de l'autre n'est pas un crime en soi. Ce qui devient un crime, c'est lorsque on passe de la peur au rejet et à la haine. Mais aujourd'hui, c'est sûr que dans la période de grande insécurité économique, mais aussi identitaire, que les gens rencontrent dans ce contexte de la mondialisation, beaucoup croient que le salut est dans la crispation sur son identité, plus ou moins rêvée d'ailleurs, et dans la méfiance à l'égard des autres. C'est tous ensemble que nous devons affronter les nouvelles problématiques du monde, et c'est tous ensemble que nous en sortirons, et non pas les uns contre les autres.
Vous avez parlé aussi de rejet vis-à-vis des chrétiens. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'islamophobie en ce moment, mais est-ce qu'on peut parler aussi de christianophobie ?
France, non, on n'est pas dans un cadre de christianophobie. Ce qui peut se passer, en revanche, c'est des phénomènes de ressentiment, non pas à l'égard des chrétiens, mais à l'égard des Européens de manière plus globale. Et dans certains quartiers, parfois, des églises ont fait l'objet d'actes de dégradation, même de profanation, mais au même titre que des centres sociaux, que des MDJC, que des commissariats. Des gens qui ont commis ces actes-là, souvent des jeunes, ont plutôt visé des symboles d'une société française et pas le christianisme en particulier.
Est-ce que des chrétiens vivent des situations similaires ?
Je pense que c'est pas tout à fait du même ordre, mais il ne faut pas nier le fait qu'il peut y avoir, je pense en particulier dans des établissements scolaires, et je crois qu'il faut alerter les autorités musulmanes, les familles musulmanes là-dessus, il peut y avoir des jeunes chrétiens qui, parce qu'ils sont très minoritaires, se font parfois mettre un peu en quarantaine, ou sont moqués parce qu'ils portent une croix. On va dire que ça n'arrive pas, ça arrive. Mais je pense que la différence, c'est qu'il n'y a pas de grand mouvement d'opinion chez les musulmans en France contre les chrétiens. La majorité des musulmans en France, heureusement, ont plutôt une opinion positive des chrétiens.
Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour apaiser cette situation, ce climat ?
Il faut écouter plus les gens. Bon, je pense par exemple qu'il y a une fixation qui se fait sur le voile depuis un certain nombre d'années. La question du voile, c'est très complexe parce que les femmes, jeunes filles qui portent le voile le portent pour des raisons extrêmement diverses. Il ne faut pas voir de l'intégrisme partout où il y a du voile. Et je pense qu'il faudrait plus écouter ces femmes, se méfier de toutes les opérations un peu politiciennes ou maladroites. Je pense par exemple ce projet-là qui circule pour interdire le voile dans les universités. Je pense que ça, c'est une stigmatisation des musulmans qui n'est pas nécessaire.
Le père Christian Delorme, interrogé par Audrey Radondi. En Corse, le diocèse d'Ajaccio s'est doté d'une association familiale catholique. Objectif, valoriser la famille, répondre à leurs besoins localement, constituer une force de proposition face aux acteurs politiques, économiques et sociaux pour mettre en avant la famille et leur demander des actions concrètes. Quentin Savignac, secrétaire général de cette jeune association, souhaite aussi aider les familles à mieux connaître la doctrine de l'Église et à répondre aux situations de détresse. En Corse, note Quentin Savignac, les familles sont encore ancrées dans les traditions, mais elles doivent apprendre à se battre pour défendre leurs valeurs. Elles doivent aussi prendre conscience de ce qui se passe au niveau national, la loi sur le mariage gay, les projets de bioéthique et l'euthanasie, et savoir réagir s'il le faut. Au Royaume-Uni, Caritas presse le gouvernement de faire davantage pour combattre le scandale de la pauvreté. Dans un communiqué, l'organisation demande aux institutions d'agir en particulier dans le secteur de l'emploi. 2/3 des enfants britanniques vivent dans la pauvreté et 5 millions de personnes ne gagnent pas assez pour assurer leurs besoins de base. Le taux de chômage a baissé entre avril et juin, mais selon Caritas, cela ne suffit pas. Le pays compte encore plus de 2 millions de chômeurs, les salaires sont faibles, les rétributions inéquitables. Par ailleurs, il est urgent d'améliorer les services sociaux de base. En République démocratique du Congo, près de 23 000 déplacés de retour chez eux ont été pris en charge par la Caritas avec l'appui du gouvernement belge. Objectif, leur assurer la sécurité alimentaire et leur fournir des outils agricoles et un accompagnement technique pour relancer l'agriculture et vivre en toute autonomie. En 2009, un conflit interethnique sanglant dans la province de l'Équateur avait jeté plusieurs milliers de familles dans la rue et en brousse. De plus, depuis décembre 2012, cette province reçoit un afflux de réfugiés centrafricains fuyant les affrontements armés qui ont suivi la défaite de François Bozizé et l'arrivée au pouvoir des rebelles de la Séléka. La question des déplacés reste dramatique en République démocratique du Congo. À la mi-juillet, dans le Nord Kivu, des milliers de personnes ont fui les affrontements entre l'armée congolaise et des rebelles ougandais. Selon l'ONU, ils ont besoin d'eau, de vivres et de médicaments. Toutes les infrastructures ont été détruites ou pillées. Et dans le cadre de nos rediffusions estivales, je vous propose de réécouter un entretien avec le secrétaire général de Caritas Internationalis réalisé en novembre dernier. Michel Roy venait de rentrer justement de la République démocratique du Congo. Il avait participé à une rencontre au cours de laquelle les présidents des conférences épiscopales et les Caritas d'Afrique avaient appelé à l'arrêt de la guerre au Nord Kivu et au respect territorial du pays. Interrogé par Hélène Destombes, Michel Roy avait pointé du doigt les commanditaires du conflit.
Les évêques du Congo et les autres dans la région disent qu'il y a des intérêts derrière. Ils ont très spécifiquement dénoncé la volonté d'accéder à tout prix aux ressources naturelles de l'est du Congo. En particulier, on trouve beaucoup de tantalite qui sert à fabriquer nos téléphones et nos ordinateurs portables. Donc, ils disent clairement que la source principale de ce conflit est l'accès aux minerais. Maintenant, il y a une deuxième raison qui est ancienne et qui est celle de la volonté du Rwanda d'étendre son espace. Et dans l'histoire, il faut se souvenir que le président rwandais a été à l'état-major de l'armée ougandaise pendant de nombreuses années et que l'Ouganda l'a aidé à rentrer au Rwanda à partir de 90 et à achever la conquête du pouvoir en 94. Donc ce sont des frères qui s'entraident. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a tous ces minerais riches. Voilà, donc la tentation est très forte, ce n'est pas nouveau. Ils exploitent déjà ces minerais. Tout ce qui quitte le Kivu passe par le Rwanda ou l'Ouganda pour sortir. Et on voit dans les budgets du Rwanda ou de l'Ouganda les ressources que représentent ces matières premières qui ne sont pas les leurs.
On a du mal à voir une issue à cette crise. Quelle pourrait être la solution? Y a-t-il un pays ou plusieurs pays qui pourraient véritablement jouer un rôle de médiateur?
La solution, je pense, peut venir en partie du secteur des matières premières. Si les compagnies du secteur extractif disent au gouvernement rwandais, au gouvernement ougandais, qu'elles sont prêtes à collaborer encore plus, mais dans un cadre légal et pas dans un cadre illégal, comme c'est le cas aujourd'hui, je pense qu'elles ont un levier important entre les mains. Et il ne faut pas les négliger dans la recherche de solutions à ce conflit. Pour ce qui est de pays qui pourraient influencer le Rwanda et l'Ouganda, je pense que dans le monde anglo-saxon, les Américains, les Anglais en particulier, qui ont soutenu les yeux fermés les Rwandais après le génocide parce que l'Occident s'est senti coupable d'avoir laissé faire ce génocide. S'ils ouvraient les yeux et qu'ils acceptaient de regarder la vérité et la réalité, ils pourraient sans doute influencer les présidents rwandais ou ougandais.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous rejoindre également sur notre site internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis.